Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés entre autres. Président Prabowo Subianto tiendra une réunion bilatérale avec Anwar Ibrahim. Adhésion de l'Indonésie au BRICS constitue une étape stratégique pour renforcer son influence. Indonésie et France entament des discussions sur le transfert du condamné à mort Serge Atlaoui. Indonésie et Chine lancent un logo pour 75 ans de relations bilatérales. 1000 touristes étrangers visitent les destinations touristiques de Jayapura. Ministère des Cultes et l'ambassade des États-Unis signent un accord de coopération dans le secteur de l'éducation. Et cinquième MNEK entre dans ses derniers préparatifs. La marine indonésienne tient une réunion de finalisation à Bâle. Mon cher joueur, voici les nouvelles en complet. Le président indonésien Prabowo Subianto a effectué une visite de travail en Malaisie jeudi pour tenir une réunion bilatérale avec le premier ministre Anwar Ibrahim. Le ministère malaisien des Affaires étrangères a expliqué dans son communiqué publié à Putrajaya jeudi 9 janvier que la visite de travail a été la première du genre. Que la visite de travail du président Prabowo Subianto a été la première du genre nommée président de la République d'Indonésie. Il a été déclaré que les deux chefs d'État discuteraient de la coopération bilatérale et exploreraient le potentiel d'une nouvelle coopération pour renforcer les relations entre les deux pays. Selon le ministère malaisien des Affaires étrangères, cette visite reflète la relation particulière entre la Malaisie et la République d'Indonésie, soutenue par une forte coopération dans divers domaines, notamment l'économie, la socioculture, la défense et la sécurité. En 2023, la République d'Indonésie est devenue le 7e partenaire commercial mondial de la Malaisie et le 3e parmi les pays membres de l'ASEAN, avec une valeur commerciale atteignant 111,21 milliards de ringgit malais, ou l'équivalent de 399,2 billions de roupies. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple de la République d'Indonésie, Edi Suparno, a estimé que l'adhésion de l'Indonésie en tant que membre à part entière du bloc économique du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, BRIC, était une décision stratégique, une étape visant à renforcer l'influence de l'Indonésie au niveau mondial. Edi a déclaré à Antara Jakarta mercredi 8 janvier que rejoindre les BRICS était une étape stratégique ainsi que le bon choix politique pour que la position de l'Indonésie devienne plus forte et soit prise en compte par les pays de l'Alliance des États-Unis et de l'Occident, l'Europe ainsi que d'autres pays membres des BRICS en rejoignant les BRICS. Il a estimé que le président Prabowo Subianto remplissait le mandat constitutionnel d'utiliser une approche politique libre et active tout en donnant la priorité aux intérêts nationaux. Il estime également que l'adhésion de l'Indonésie en tant que membre à part entière des BRICS est une étape stratégique pour soutenir l'objectif de croissance économique de 7 à 8%. Selon Edi, rejoindre les BRICS donne à l'Indonésie l'opportunité d'attirer davantage d'investisseurs dans les pays dont les économies ont connu une croissance significative ces dernières années, parce que l'Indonésie ne peut pas dépendre éternellement des investissements de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et de l'alliance entre les États-Unis et le Japon. L'Indonésie et la France ont commencé à discuter du transfert de Serge Areski Atlaoui, condamné à mort pour trafic de drogue, lors d'une réunion technique du ministère indonésien de coordination du droit, des droits de l'homme, de l'immigration et des services pénitentiaires, Kemenko Kumham Imipas, avec des représentants du gouvernement français de Jakarta mercredi 8 janvier. La discussion a eu lieu en réponse à la lettre officielle des demandes de transfert de prisonniers ou de transfert de prisonniers qui avaient été soumises par le ministre français de la Justice au ministère indonésien de l'immigration et des affaires pénitentiaires le 19 décembre 2024 lors de la réunion. Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France, Laurent Le Godec, a déclaré que le gouvernement français respecte la souveraineté de l'Indonésie dans l'imposition des sanctions pénales et ajustera les sanctions pénales en fonction des lois en vigueur en France, compte tenu de la détérioration de l'état de santé de Serge Atlaoui. Il espère que des considérations humanitaires seront prises en compte pour son rapatriement immédiat. Les participants à la réunion ont ensuite discuté des procédures à suivre pour parvenir à un accord visant à fournir un cadre juridique au transfert de Serge Atlaoui. Laurent a exprimé la disponibilité des autorités françaises à étudier la proposition indonésienne pour parvenir à un accord. En outre, les participants à la réunion ont convenu de poursuivre les discussions pour parvenir à un accord conforme aux souhaits des deux parties, à la fois l'Indonésie et la France. Les diplomates indonésiens et chinois ont lancé mardi 7 janvier un logo pour commémorer 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le logo est l'œuvre d'un jeune indonésien nommé Angkasa Putra, lauréat d'un concours de design organisé par l'ambassade de Chine à Jakarta, l'ambassade de la République d'Indonésie à Pékin et la communauté de politique étrangère d'Indonésie. Comme indiqué par Chinhua, cité par Antara Jakarta mercredi 8 janvier 2025, l'ambassadeur de Chine en Indonésie, Wang Lutong, a déclaré lors de la cérémonie de lancement qui s'est tenue au China Space à l'intérieur du complexe de la mosquée Istiqlal à Jakarta qu'il était heureux de voir les designers et les amateurs d'art des deux pays participer activement. Avec plus de 100 d'œuvres d'Indonésie soumises. À partir de 600 modèles, chaque participant a habilement combiné les liens historiques, les réalisations de coopération et la vision commune d'un avenir meilleur entre la Chine et l'Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Jauhari Oratmangun, a salué le concours car il reflète les partenariats forts et durables entre les deux pays. Selon lui, cette coopération bilatérale continue d'apporter des bénéfices pour le bien-être du peuple indonésien. L'ambassadeur Jauhari a également souligné l'importance de renforcer les relations dans les domaines de la sécurité, de l'économie et des échanges entre les peuples des deux pays. L'Office du tourisme de la ville de Jayapura en Papouasie a déclaré que jusqu'à 1000 touristes étrangers à bord du navire de croisière MV Nordam visiteront les destinations touristiques de cette région le 12 janvier 2025. Chef par intérim de l'Office du tourisme de la ville de Jayapura, Erid Rumansara, à Jayapura, mercredi 8 janvier 2025, a déclaré qu'il avait préparé environ 200 guides touristiques pour guider les touristes vers diverses destinations touristiques à la fois dans la ville de Jayapura et dans la région de Jayapura. Selon Erid, sur les 1000 touristes étrangers, 300 achèteront des forfaits touristiques. Il a déclaré que les touristes visiteraient le marché traditionnel de Hamadi, le pont Yutefa, le musée du centre culturel de l'université de Cendrawasih, le temple et le parc IMBI. Il a expliqué que les touristes resteraient dans la ville de Jayapura pendant 7 heures avant de partir en bateau pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis pour l'Australie. Le navire de croisière NV Nordam, battant pavillon néerlandais, visite l'Indonésie depuis décembre 2024, amenant des milliers de touristes étrangers dans les principales villes du pays, notamment Surabaya, Bali et Lombok. Le ministère des Religions et l'ambassade des États-Unis en Indonésie ont signé un accord de coopération dans le domaine de l'éducation à travers le programme de bourse Fulbright géré par l'américain indonésien Exchange Foundation, AMINEF. La signature du protocole d'accord a été effectuée par le ministre de la Religion Nasiruddin Umar et l'ambassadrice des États-Unis en Indonésie, Kamala Shirin Lahdir, au bâtiment du ministère de la Religion à Jakarta mercredi 8 janvier. Nasiruddin Umar a expliqué que le cœur de la coopération consisterait à offrir des opportunités aux étudiants, femmes et hommes, ainsi qu'aux étudiants du ministère de la Religion de la République d'Indonésie d'obtenir des bourses Fulbright pour l'Amérique, en particulier ceux qui répondent aux exigences. Ce programme de renforcement des capacités vise à améliorer la qualité de l'éducation et à promouvoir les échanges culturels et le partage des connaissances sur la société et la culture entre les deux pays. Dans le même temps, l'ambassadrice des États-Unis en Indonésie, Kamala Shirin Lahdir, a déclaré que cette coopération était une étape visant à renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. En outre, cette collaboration ouvre une introduction culturelle plus large entre l'Indonésie et les États-Unis pour ceux qui reçoivent des bourses à MINEF. Le quartier général de la marine des forces armées nationales indonésiennes, TNI, et les pays participants à Denpasar Bali ont tenu une réunion de finalisation des derniers préparatifs du 5e exercice naval multilatéral Komodo MNEC en 2025 dans le détroit de Badung et Nusa Dua qui est prévu pour se dérouler du 15 au 22 février 2025. Le chef du service d'information de la marine indonésienne, le premier amiral de l'armée nationale indonésienne, Imad Wirahadi Arsanta Wardana, à Jakarta mercredi 8 janvier, a expliqué dans la finalisation lors de cette réunion des dizaines de délégués des pays participants et de la marine indonésienne. En tant qu'hôte et organisateur, ont discuté du plan de formation et des procédures qui serviront des lignes directrices pour la formation. Le contre-amiral Huira a expliqué que le MNEC est un exercice non combattant organisé régulièrement tous les deux ans par la marine indonésienne depuis 2014. L'exercice vise à renforcer la coopération et l'interopérabilité des marines des pays de la région Asie-Pacifique dans les opérations humanitaires et gestion des catastrophes, renforcer la coopération pour maintenir la sécurité en mer. La marine indonésienne a invité les marines de 58 pays et jusqu'à présent 38 pays, dont l'Indonésie en tant qu'hôte, ont confirmé leur participation à l'exercice MNEC à Bali. Il a ajouté que sur les 38 pays, un certain nombre de pays ont également confirmé qu'ils enverraient leurs navires de guerre, notamment l'Australie, la France, le Japon, la Malaisie, les Philippines, la Russie, Singapour, la Thaïlande, l'Angleterre, les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine, l'Irak, l'Italie et les Émirats arabes unis. Bonjour, je vais te laisser tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Les fonds villageois utilisés pour lutter contre la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire ». L'éradication de la pauvreté et l'autosuffisance alimentaire sont deux missions d'état cita du gouvernement du président Prabowo Subianto. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a fourni des fonds pour les villages en 2025 d'un montant de 71 billions de rupiah. Selon le ministre des Villages et du Développement des Régions Défavorisées, Yandri Susanto, l'utilisation des fonds villageois en 2025 sera prioritaire pour soutenir l'éradication de l'extrême pauvreté et les programmes de sécurité alimentaire. Selon WorldBank.org, le seuil international d'extrême pauvreté est fixé à 2,15 dollars américains, soit environ 34 000 rupiah par personne et par jour, au prix de 2017. Pendant ce temps, selon les données de l'Agence centrale de statistiques, BPS, de mars 2024, le pourcentage de personnes extrêmes pauvres en Indonésie était de 0,83% de la population totale. Il a réussi à réduire de 0,29 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, qui était de 1,12%. Dans l'activité de socialisation de la réglementation de nos ministres des villages numéro 2 de 2024 concernant les instructions opérationnelles pour l'orientation de l'utilisation des fonds villageois en 2025 à Jakarta, mercredi 7 janvier, le ministre Yandri Susanto a déclaré que 15% du fonds du village seront utilisés pour réduire les taux d'extrême pauvreté. S'il n'y a pas d'extrême pauvreté dans le village concerné, l'utilisation des fonds villageois sera réglementée plus en détail dans des instructions techniques. Par ailleurs, l'utilisation du fonds villageois 2025 est également priorisée pour soutenir les programmes de sécurité alimentaire. Le règlement numéro 2 de 2024 du ministre des villages stipule qu'au moins 20% des fonds des villages doivent être utilisés pour des programmes d'autosuffisance alimentaire afin de soutenir la sécurité alimentaire. Le programme gouvernemental du président Prabowo Subianto visant à réduire la pauvreté et à atteindre l'autosuffisance alimentaire est devenu l'une des actions prioritaires du ministère des villages et du développement des régions défavorisées à l'avenir. Toutefois, ce travail nécessite certainement le soutien d'autres ministères et institutions pour qu'elle puisse se dérouler sans heurts conformément aux objectifs. Espérons qu'avec une bonne coopération de toutes les parties et une supervision de l'utilisation des fonds pour s'assurer qu'ils sont bien utilisés, le programme gouvernemental Asta Cita, notamment pour éradiquer la pauvreté et réaliser l'autosuffisance alimentaire, pourra être réalisé correctement. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 9 janvier 1951, l'ouverture officielle du siège de l'ONU à New York. Le siège des Nations Unies ONU à New York joue un rôle très important en tant que centre d'activités internationales. Ici se tiennent diverses réunions et sessions importantes telles que l'Assemblée générale de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil économique et social de l'ONU. Auparavant, le siège de l'ONU se trouvait à Londres et a été fondé en 1945. Cependant, le 24 octobre 1949, le siège de l'ONU a été déplacé à New York. Passons maintenant à l'événement sur l'élection de Mahmoud Abbas à la présidence de la Palestine. Le 9 janvier 2005, Mahmoud Abbas est élu président de l'Autorité nationale palestinienne suite à sa victoire aux élections organisées pour remplacer Yasser Arafat, décédé en 2024. Abbas a occupé ce poste jusqu'au 15 janvier 2009. Le mandat de Mahmoud Abbas a ensuite été prolongé sans élection officielle en 2010, déclenchant un débat sur la légitimité de son gouvernement. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur l'accident d'avion Sriwijaya RSZ 182. Le vol Sriwijaya RSZ 182 est un vol domestique régulier des passagers Indonésie opéré par Sriwijaya Air depuis l'aéroport international Soekarno-Hatta, Banten, jusqu'à l'aéroport international Supadio, Pontianak, Kalimantan Occidental. Le 9 janvier 2021, l'avion s'écrase dans les eaux des Mille Îles 4 minutes après son décollage. Cet incident a tué les 62 passagers et membres d'équipage. C'est auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
dan megahnya harapanmu. Takkan terhentikan semua langkah ini. Tak peduli panas dan hujan.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Ces auditeurs, pour la week suivante, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est... Ministre de l'Environnement affirme que le commerce du carbone vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions. Le ministre de l'Environnement, Hanif Faisal Nurofik, a déclaré que le commerce du carbone effectué par l'Indonésie vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, comme indiqué dans le document de contribution déterminé au niveau national, NDC. Il a déclaré que l'Indonésie continue d'améliorer ses efforts en matière d'échange de droits d'émission de carbone, notamment en développant un système d'engrillage systèmement national SRN plus optimal, ainsi qu'en communiquant avec la Bourse indonésienne concernant la Bourse indonésienne du carbone, BKI. L'existence de la valeur économique du carbone, NEK, fait partie des efforts visant à réduire les émissions de GES qui devrait être réduite de 31,89% grâce à nos propres efforts et de 43,2% grâce au soutien international en 2030. Selon le document NDC amélioré, il atteindrait des conditions d'émission nette de carbone nul en 2060. Par conséquent, selon Anif, l'Indonésie veut immédiatement créer un climat propice à la mise en œuvre d'une économie du carbone par le biais du commerce du carbone, des paiements basés sur les performances et des taxes sur le carbone, comme le prévoit le règlement présidentiel numéro 98 de 2021. En plus d'optimiser l'efficacité du SRN, le gouvernement indonésien élaborera également bientôt une méthodologie, une certification de réduction des émissions SPE crédible et l'achèvement d'une feuille de route pour les secteurs inclus dans le NDC, ainsi que la mesure, le reporting et la vérification MRV. En outre, Hani Faisal a ajouté que l'Indonésie soumettrait bientôt le deuxième NDC de l'Indonésie au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, CCNUCC. Selon lui, la remise est prévue au plus tard en février 2025. Hani Faisal a également encouragé toutes les parties à s'accorder sur le chiffre de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la deuxième NDC. Selon lui, cet objectif servira de référence pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2031 à 2035. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Padamu senangnya hatiku rasakan ingin selamanya selalu dalam cinta itu yang ku rasa.
padamu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, si vous visitez l'île Madura à l'est de Java, vous pouvez manger ou bien de manger et langue de délices culinaires traditionnelles qui vaut la peine d'être essayée. Cette bouillie, qui est un plat culinaire typique de Madura, est assez différente des autres bouillies car elle a tendance à avoir un goût savoureux et épicé. On dit que le nom de la bouillie mangul a été donné parce que dans le passé, les vendeurs de bouillie mangul vendaient leurs marchandises en les portant sur leurs épaules. Chers auditeurs, la bouillie mangul utilise la farine de riz comme ingrédient principal. La farine de riz est mélangée avec du lait de coco, des feuilles de laurier et du sel. Il n'est pas rare que certaines personnes ajoutent également d'autres épices comme des échalotes, de l'ail, des piments rouges, du curcuma, du galanga, kemferia galanga, de la coriandre, des noix de bancoulier et même des feuilles de citron vert. La bouillie est ensuite servie avec du serundeng à la noix de coco ou la noix de coco râpée, sautée, mélangée avec des épices et d'autres ingrédients et de la sauce chili aux crevettes frites. Il n'est pas rare que des feuilles de basilic soient également ajoutées à un bol de bouillie. Chers auditeurs, la bouillie mangul a un goût savoureux et épicé. Le goût savoureux vient de serundeng, tandis que le goût épicé vient de la sauce chili aux crevettes frites. La bouillie de mangul se trouve souvent autour des marchés traditionnels ou des étals de Madura. Généralement, les commerçants le vendent le matin comme menu de petit déjeuner. La bouillie mangul coûte entre 10 000 à 15 000 rupiah par portion. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
salamunan bahwa ku telah dapatkan mutiara dalam hatimu, sinari setiap langkahku, mengajak mimpi yang dulu menjadi nyata akhirnya. Oh, dan kini kau selalu mendengungkan namamu. Tetaplah membagi mutiara hati, tetaplah gemilang hatimu, sinari setiap langkahku, mengajak
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique d'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la plante Gamma Melon Parfum. Le chercheur et doyen de la faculté de biologie, l'Université Gajah Mada, professeur Budi Setiadi Daryono, a développé des melons locaux destinés à être utilisés comme ingrédients cosmétiques afin de réduire la dépendance aux produits cosmétiques importés. Grâce à une approche biotechnologie moderne, Budi a développé un nouveau cultivar en utilisant la méthode de croisement des parents NO3 avec MR5. Ce croisement produit des caractères d'écorce de melon qui sont petites, amères, mais qui ont un fort arôme distinctif. Cet arôme est extrait et transformé en produit Gamma Melon Parfum. Gamma Melon Parfum possède un caractère génétique unique. Il contient de la cucurbitacine et divers métabolites secondaires, présentant un potentiel pour l'industrie cosmétique. Cette plante est capable de produire 4 jusqu'à 10 fruits pesant 50 g à 4 onces. La période moyenne de récolte a tendance à être rapide, soit environ 55 jusqu'à 58 jours. Cette innovation apporte non seulement une solution pour valoriser les produits cosmétiques locaux, mais rend également les produits plus respectueux de l'environnement. Actuellement, il existe deux produits fabriqués à partir du fruit Gamma Merlon Parfum, à savoir le shampoing et le savon. Les produits de shampoing Gamma Merlon Parfum ont été commercialisés via la collaboration entre Gamma Merlon Parfum et PT Gizi Indonesia et PT Nudira Sumber Daya Indonesia. Cet extrait de Gamma Merlon Parfum est utilisé dans les produits de shampoing Nahla dans le programme de recherche innovante productive. Cette initiation commerciale était réalisée depuis 2018 jusqu'à 2021 pour développer des composés bioactifs tels que flavonoïdes, des terpénoïdes et des saponines. De plus, des recherches sont également en cours sur Gamma Merlon Parfum en tant que médicament anticancéreux. Pour cette recherche, Budi a reçu un prix en tant que pionnier académique pour le prix Or du Leader Académique 2024 dans le domaine des sciences de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Technologie en décembre dernier. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical avec Maudry. Cette fois, je vais vous présenter une chanson d'une des divas indonésiennes, Rosa, intitulée Nada Nada Cinta. Ce jeu d'art Nada Nada Cinta est sorti le 27 janvier 1996 et c'est un album qui a introduit avec succès Rosa dans l'industrie du divertissement indonésien. Son premier single porte le même titre, Nada Nada Cinta. Cette chanson a été créée par Yonki Suarno et Mariati. Nada Nada Cinta raconte le sentiment fort de tomber amoureux, surtout après avoir reçu une expression d'amour de la personne que vous aimez. Cette chanson décrit également la gratitude pour la présence de son partenaire, ainsi que l'espoir que leur amour durera pour toujours. En 2024, Rosa a réédité Nada Nada Cinta en collaboration avec Ariel Noah pour le documentaire All Access to Rosa 25 Shining Years. Dans la dernière version de Nada Nada Cinta, Rosa et Ariel présentent une touche plus moderne et fraîche. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Nada Nada Cinta, chantée par Rosa. Bonne écoute.
Masih terasa getar hati saat engkau ungkapkan segala yang terpendam dan kau bisikkan nada cinta semakin indah dunia membuka mata hati getar-getar cinta semakin dalam ku rasa bagai sebuah simfoni
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.